Bonjour à toutes et à tous, il est 16h59, nous avons une minute d'avance et vous écoutez Au fil des pages sur les ondes de Radio Libertaire. Merci de nous y rejoindre et nous allons commencer avec un peu de musique classique pour changer et pour nous évader. Le grand Chopin, la valse en la mineur interprétée par Marilyn Hall Frederick. Chopin, c'est... Bon, on va peut-être commencer tout de suite, il ne faut jamais laisser de blanc sur la radio. Donc c'est une émission qui est proposée comme d'habitude par des passionnés du livre et de la lecture. Et aujourd'hui, Frédéric, Marie, Francis, accompagné d'Agnès, qui va nous parler d'exposition, de caractère, de catalogue. Et je vous rappelle donc que de 17h à 18h30, les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, sur cette radio 89.4, eh bien, nous allons vous parler de ces livres et d'expositions aussi en rapport avec le livre. Alors Frédéric, où en sommes-nous dans nos affaires? Est-ce que ça marche ou pas? Bon, donc, oui. Et voilà, dans ce monde qui est un peu tendu en ce moment, ben je trouvais que Chopin, une valse de Chopin, c'était toujours un moment agréable. Frédéric, avant que nous démarrions sur la présentation des livres, est-ce qu'il y a des annonces?
Oui, il y a une annonce, en effet. Alors, le 19 novembre, nous allons accueillir Nader Taïef. Taïef, je ne sais plus, qui va nous parler... de l'actualité, de la situation sociale en Iran. Femme, vie, liberté, ça aura lieu le mercredi 16 novembre 2022 à 20h à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, métro ligne 9 Oberkampf ou ligne 8, fille du calvaire. Voilà, je redonne la parole à Francis.
Merci. Alors, au programme de cette émission, eh bien, tout d'abord, deux livres, un peu comme d'habitude, pour alimenter le débat. Un livre d'Irène Théry, Moi aussi, La nouvelle civilité sexuelle. un livre collectif, La démocratie sous les bombes, Syrie, le Rojava entre idéalisation et répression. Une rencontre avec Michel Ragon, c'est-à-dire avec l'exposition qui lui est consacrée au musée de l'histoire vivante à Montreuil. Un moment d'histoire avec Agnès qui va nous présenter une exposition à la bibliothèque Mazarine de Garamond avec un T, au Garamond avec un D et un S. Une aventure typographique. Ensuite, une pépite, un livre tout à fait émouvant de Sylvain Vergara, Les chemins de l'aube. Puis, un roman de la vie, Carole Five, Quelque chose à te dire. Et, si nous avons le temps, et j'espère que nous l'aurons, des images pour comprendre et une bande dessinée consacrée à Louise Michel, La Vierge Rouge. Alors, nous, pour ouvrir le débat, alors, c'est un livre, moi aussi, La nouvelle civilité sexuelle de la grande sociologue Irène Théry. Alors, Irène Théry a souvent intervenu sur la question du genre, sur la question des droits des femmes, etc. Alors, Marie, qu'en est-il de ce livre ?
Oui, donc... Irène Théry donc, est la grande sociologue spécialiste des questions de droit, de parenté et de genre. Et donc, elle est également directrice d'études à l'EHESS. Et donc, en fait, donc à travers ce livre, hein, moi aussi, La nouvelle civilité sexuelle, hein, donc, qui est paru le mois dernier, en septembre 2022, aux éditions du Seuil. Donc, cet ouvrage, en fait, il apparaît à un moment propice, hein, car cela fait maintenant 5 ans que le mouvement MeToo est apparu, avec la très médiatique affaire Weinstein, qui marque finalement le point de départ d'une déflagration mondiale. Hein, donc ce livre, en fait, permet... comment dire ? Oui, ce livre, en fait, présente une généalogie... à travers la mise en exergue donc, par Irène Théry, de 3 révolutions cruciales dans l'histoire du consentement et également dans l'histoire du féminisme. Donc la sociologue explique d'ailleurs que MeToo a permis l'émergence donc de cette nouvelle civilité sexuelle qui est donc, je cite, portée par les valeurs du respect et de l'émancipation. Donc il est intéressant de noter que cet ouvrage n'est pas seulement une étude sociologique consacrée au féminisme, il s'agit également d'un récit très personnel, celui de l'autrice elle-même, qui raconte en fait la façon dont elle a également vécu, subi son agression sexuelle, alors qu'elle n'était seulement âgée que de 8 ans. Donc elle met bien en avant que la parole des femmes victimes de violences sexuelles est très difficile à se libérer, hein, mais comme elle le dit très bien dans son prologue à la page 16, en fait... Excusez-moi.
En fait, le témoignage est très, très poignant quand
oui,
on le
oui,
lit.
Oui, hein, oui, 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 tout à fait. Donc voilà, donc j'ai retrouvé la page. Donc comme elle le dit si bien, chacune a compris, comme je l'ai compris moi-même, que se déclarer n'était pas simplement un acte de libération personnelle, mais l'accomplissement d'un devoir pour que le monde change. C'est la façon dont on peut définir le mouvement MeToo. Mais donc, ce livre n'est pas seulement l'histoire de MeToo. Hein, ce mouvement, donc, d'accord, il a pour vocation de servir de cause commune à toutes les femmes. Il ne sert pas simplement d'exutoire pour les victimes. Hein. Mais en fait, ce que veut clairement définir la sociologue à travers ce livre, c'est que la civilité sexuelle, donc, elle... Elle se caractérise comme une forme de règle du jeu qui passe par la division entre une vie sexuelle permise et une vie sexuelle interdite. Et en fait, c'est à travers donc 3 révolutions du consentement que va justement donc évoluer donc cette histoire. Donc il y a la première révolution hein, qui est donc en fait la contestation par la réforme et par la royauté pardon du monopole de l'Église sur l'organisation de la civilité sexuelle. Donc en fait l'autorité du père va prendre le dessus sur l'autorité cléricale.
La réforme, tu veux dire les protestants? Et par Payot? comme ça ce soir.
Et donc... ensuite, il y aura la deuxième révolution, donc qui ne sera qu'en 1792, hein, avec la création du mariage civil, donc qui a été permise par Napoléon. Hein, il a quand même fait deux, trois réformes
importantes.
Voilà. Et donc, la troisième émerge dans les années 70, donc avec la concrétisation de la notion... amour, sexe et mariage, voilà, donc les trois sont liés, et voilà, donc le mariage n'est pas seulement à fin procréative, mais voilà, le mariage c'est aussi de l'amour, donc ça c'est vraiment très très bien expliqué dans ce livre.
D'accord. Alors... ce livre, on rappelle le titre.
Oui. Donc, moi aussi, la nouvelle civilité sexuelle, donc par Irène Théry, aux éditions du Seuil, donc paru en septembre 2022.
2022, hein, c'est tout récent. Et
tout à fait.
Beaucoup entendu parler, on a beaucoup entendu parler Irène Théry et du livre d'Irène Théry. C'est tout à fait. C'est un document majeur, quoi. C'est vrai. Autre thème d'actualité, la situation au Rojava. Le Rojava, cette région du Kurdistan, gérée suivant des principes qui empruntent au communalisme cher à Boukchin, attire notre attention, bon, pour des raisons politiques et sociologiques, et j'avais déjà, l'an passé, présenté sur le site du Monde Libertaire le livre de Pierre Bance consacré à cette question. Il est publié aux éditions Noir et Rouge, le livre de Pierre Bance, c'est vraiment une référence, et je le recommande toujours, mais le livre d'aujourd'hui actualise un certain nombre de données. Alors, le texte, on pourrait prendre cet extrait. Nous retrouvons, selon les auteurs, à Rojava, l'ambition d'une révolution sociale durable où les décisions partent de bas en haut, à partir de communautés de base, dans la perspective d'un confédéralisme démocratique, inaugurant une modernité autre que celle qui légitime l'existence du capitalisme et de l'État. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une grande ambition, mais qui se construit dans un contexte de guerre, de haine, de la part de puissances surarmées environnantes, et après avoir affronté les islamistes, les Kurdes syriens luttent pour mettre en place de nouvelles structures politiques selon ces principes. Et il est certain qu'aucun État, occidentaux et autres, ne soutient une telle démarche qui nie le principe même de l'État. De plus, les critiques émergent quant aux compromis nécessaires dans cet environnement complexe. Et pourrions-nous, nous, anarchistes, rester prudents et nous rappeler que, pendant la Commune de Paris, il était difficile de construire une autre société sous les bombes et les assauts des Versaillais. Alors, pour qui n'a pas une connaissance approfondie de cette région, c'est un peu mon cas, et des combats politiques qui y sont menés, cet ouvrage constitue une excellente introduction. En effet, outre la situation géographique et historique, les intervenants posent clairement les enjeux en soulignant l'originalité et la spécificité non transposable en Occident. S'appuyant sur les thèses de Boukchin, Ocalan, qui est la figure symbolique de la lutte responsable du PKK emprisonné en Turquie, souligne que le niveau local est le niveau où les décisions doivent être prises. Tous les domaines de la société doivent s'auto-administrer et tous les niveaux de la société doivent être libres de participer ou pas. Alors en 2014, il y a une charte du contrat social qui est rendue publique. Il s'agit d'un engagement, dit-il, l'engagement que chacun prend avec les autres. C'est la constitution d'un peuple pluriel plutôt que l'organisation d'un État souverain. Alors vous y retrouverez les droits et les libertés, notamment les droits et les libertés des femmes. Et cette charte est appuyée par un mouvement politique qui est une plateforme d'organisation civile au fonctionnement horizontal et démocratique. avec une place déterminante pour les communes. Et ce n'est pas sans rappeler certaines positions de Pierre Kropotkin, qui était vraiment passionné par l'idée de la commune comme espace de discussion de base. C'est un bilan d'étape, cet ouvrage. Et comme il y a plusieurs intervenants, eh bien, il y a Pierre Banse qui intervient et qui, lui aussi, actualise en montrant l'organisation du pouvoir civil et de ses rapports avec le pouvoir militaire. Ben, quid de l'existence d'une opposition aussi ? Nous, nous sommes habitués dans une démocratie, enfin pour le moment, à avoir une opposition, mais la population se lasse du conflit. Comment mener une démarche autogestionnaire dans le fonctionnement des communes ? Comment organiser l'éducation ? Qu'est-ce que le peuple ? Autant de questions fondamentales au Rojava. Puis sans oublier, évidemment, les tensions à la frontière avec la Turquie. Alors, souvent, les femmes sont mises en avant. Oh, sous-entendu, elles sont libres. Bon, la réalité, évidemment, est plus complexe. Et la contribution sur cette question, d'ailleurs, est particulièrement riche. Parce que la complexité entre les différents territoires, les relations entre les tribus qui habitent ces territoires, eh bien, implique des rapports divers à l'égard du statut des femmes. Et en France, la cause kurde connut un bon accueil. C'est vrai que au départ, ils étaient bien perçus. Et puis après, on les a qualifiés de terroristes, ce qui a permis à Nicolas Sarkozy de faire procéder à des arrestations. Après, on a eu le rôle des Kurdes. Vous voyez, on est dans des systèmes où un coup c'est bien, un coup c'est bon. Les Kurdes face à Daesh, là, ça va renforcer leur image. Mais pourtant, les atermoiements des Occidentaux, les États-Unis en tête, mirent à mal leur action et la France macronienne se rapproche de la Turquie. Alors, dans ces conditions, pas d'illusion. Les rapports internationaux fragilisent en permanence les Kurdes, surtout ceux du Rojava, qui ne disposent pas de richesses pétrolières, mais seulement de leur courage et de leur énergie. Alors, oui, agir dans un pays en reconstruction, surtout avec d'autres concepts que ceux dominant nos sociétés occidentales, rend complexe l'évolution des relations au sein du Rojava. D'où l'intérêt que nous devons y porter, nous qui observons avec intérêt cette question. Et chacun pourra apprécier cette phrase. Être kurde dans le monde actuel, c'est un très dur métier. Mais être ami des Kurdes, ce n'est pas une sinécure non plus. Alors, un ouvrage collectif, donc sous la direction de Pierre Crétois et Édouard Jourdain, La démocratie sous les bombes, Syrie, le Rojava entre idéalisation et répression. C'est une édition, ce sont les éditions Le Bord de l'eau en 2022, donc c'est tout récent. Vous trouverez sur le site internet du Monde Libertaire, vous trouverez cette chronique. Je l'ai publiée là, cette semaine. Et je vous invite vraiment à lire ce livre qui mérite, parce qu'il nous interpelle et rien n'est réglé. C'est-à-dire que tout est encore sujet à débat. Frédéric, on se fait quand même un petit peu de jazz, hein. C'est bon là, tu... deuxième temps de l'émission, une rencontre avec Michel Ragon. Alors en fait, nous devions recevoir un représentant du musée de l'histoire vivante de Montreuil pour nous parler du musée, de ses activités, de ses expositions, mais les difficultés de la vie, la Covid, ont empêché nos amis d'être présents et plus globalement de s'exprimer. Alors, on les réinvitera pour parler du musée, d'autant qu'il va y avoir l'année prochaine des expositions intéressantes. Mais là, nous allons parler de l'exposition de Michel Ragon. Sur Michel Ragon. Alors, on arrive sur les hauteurs de Montreuil. Et c'est un petit château, un petit manoir qui est dans un parc, d'ailleurs un très joli parc. Et sur la gauche, eh bien, on a une petite exposition consacrée à Michel Ragon. Alors Michel Ragon, nous évidemment, à Radio Libertaire, à Publico, on le connaît, on l'apprécie. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que c'est assez émouvant, c'est quand on est dans l'exposition. Et on a une photo de Michel Ragon devant un micro à peu près comme celui que j'ai en ce moment en face de moi, et je me dis, tiens, peut-être était-il dans ce studio et c'est peut-être s'y exprimait-il. Et on retrouve même des cartes de lecteurs de Radio Libertaire, on le voit aussi souriant devant la librairie Publico. Donc oui, Michel Ragon, c'est un anarchiste. Il s'est toujours refusé d'être la voix de son maître, mais il a, et c'est étonnant, et on le voit bien dans les différentes salles, dans les différentes vitrines. Bon, à la base, il est né en 1924, c'est une famille modeste, il est pupille de la nation, et puis il va devenir un auteur prolixe, une référence pour plusieurs générations d'horizons diverses. Et lui, qui se définissait comme un autodidacte, a très tôt compris que la culture appartenait à tous. Alors, il vit à Fontenay-le-Comte, en Vendée. Il est éduqué par deux femmes, sa grand-mère, qui lui apprend à lire, sa mère, veuve d'un sous-officier, et il ne cessera d'exalter ses origines dans les fictions d'inspiration autobiographique qu'il écrira toute sa vie. C'est un élève dans les établissements primaires catholiques, vous savez, n'oublions pas que nous sommes en Vendée, mais il n'ira jamais au collège. Le curé de la paroisse ne permettant pas qu'il aille à l'école sans Dieu. Alors, à 14 ans, il est garçon de course à Nantes, où, quand il n'aide pas sa mère, il se forme, notamment la nuit. Et il lui faudra boire, dit-il, entre guillemets, tant de livres pour accrocher sa vie rêvée. Il est manutentionnaire, et puis après la guerre, il va s'installer en 1945 à Paris. Et là, il rencontre Henri Poulaille, un homme extrêmement important de cette littérature prolétarienne, de cette littérature ouvrière. Et Poulaille lui présente le spécialiste du mouvement ouvrier, Édouard d'Oléans, et ainsi que plusieurs écrivains prolétariens. Il lui confiera très tôt, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de diplôme. C'est intéressant d'observer ça, cette notion d'autodidacte. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui, premièrement, est publié dans une revue qui s'appelait Maintenant. Poulaille lui confie la direction des cahiers du peuple. Il écrit dans des journaux, Le Monde ouvrier, L'émancipation ouvrière, paysanne, pardon. Et il va préparer un livre qui sera son premier ouvrage de fond, Les écrivains du peuple, à l'origine de son grand œuvre, L'histoire de la littérature prolétarienne de langue française, que l'on peut encore trouver à Publico. Alors, comment fait-il pour vivre? Parce qu'on ne vit pas d'être directeur d'une petite revue comme Les cahiers du peuple. Eh bien, il court les bouquinistes et il devient bouquiniste. Donc il sera pendant longtemps bouquinier. Alors il y a une carte où on voit d'ailleurs sa carte de bouquiniste, où il est. Bah, il est juste en face, il est sur le quai Malaquais, qui est quasiment le quai de la bibliothèque Mazarine, c'est bien ça. Donc vous voyez comme quoi il y a des liens et il y a des transitions dans nos affaires. Et il y a toujours cette réflexion sur l'autodidacte. Alors, vous savez que Sartre avait un certain mépris à l'égard des autodidactes, et Ragon écrit « L'autodidacte est une espèce qui se fait rare et qui est en voie de disparition par le fait de la prolongation obligatoire des études. C'est une espèce qui n'est pas bien vue dans les milieux intellectuels, qui est l'objet de moqueries. Rousseau a déjà été moqué en son temps. Et j'insiste sur le fait que Rousseau et que Ragon appréciait beaucoup les textes de Rousseau. J'ai essayé, poursuit Ragon, de ne pas tomber dans les défauts des autodidactes. Étant lié dès mes 21 ans au milieu de la littérature prolétarienne, j'ai fait attention à ne pas être un touche-à-tout. C'est peut-être le défaut, entre guillemets, que l'on peut trouver chez les autodidactes. C'est une grande tentation pour eux d'intervenir dans tous les domaines. Je me suis interdit certains secteurs pour mieux entrer dans d'autres. Et Sartre, vraiment le prototype de l'intellectuel bourgeois contemporain, se moque dans la nausée de l'autodidacte, qui, dit-il, s'instruit dans l'ordre alphabétique. Et je revendique d'avoir été cet autodidacte qui lisait tout dans l'ordre alphabétique. J'ai donc découvert la littérature seulement par le biais des petits classiques Larousse que j'achetais d'occasion chez un bouquiniste de Nantes. Alors, bien sûr, ça vous fait lire Aristote très tôt et Zola très tard. Bon, la question de ça, effectivement, quand on n'a pas les clés pour essayer de rentrer dans cet environnement, dans le monde de la littérature, bien, on est un peu perdu. C'est quelque chose qu'on peut retrouver quand on va dans de grandes librairies. Quand je dis grandes, c'est en volume. Quand on va chez Gibert à Paris ou quand on va sur d'autres librairies en région, il y a des moments où on est là, on regarde, et puis combien de fois il m'est arrivé de ressortir en n'ayant rien acheté parce que j'avais pas de but. Et donc, quels sont les guides? Ça, c'est très important. Et donc, il a essayé de s'organiser, de créer sa réflexion. Alors, il poursuit dans un entretien, tenez, un des derniers, là, c'est sorti en juin 2006. Ragon explique que « Je n'avais qu'un seul désir, être écrivain. Pas forcément pour le peuple, mais se servant d'une mémoire populaire pour écrire. La retraduisant, y compris dans le vocabulaire et dans le style, pour atteindre un public plus large. » Alors on va de salle en salle. Il y a aussi, alors il y a deux grandes vitrines, celle où vous retrouvez tous ces ouvrages, parfois traduits d'ailleurs, puisqu'il a été traduit évidemment dans différentes langues, entourant sa machine à écrire. C'est assez émouvant. Et puis, il y a une autre que j'aime beaucoup, parce que j'ai beaucoup aimé le livre, c'est « La mémoire des vaincus ». C'est son livre qui, avec les mouchoirs de Cholet, est le plus célèbre. Et là, c'est aussi une très belle vitrine. Et puis, car il est curieux, il se tourne vers l'art abstrait, l'architecture, l'urbanisme. Et il passera une thèse de manière à pouvoir se consacrer à la pratique architecturale et ses idéologies. Voilà le titre. Ça, c'est en 1975. Et il est donc professeur à l'École nationale supérieure des arts déco. Pour un autodidacte issu d'une famille défavorisée, je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Et on avait vu, Marie, le début de sa de sa thèse.
Oui, tout à fait. C'était assez impressionnant hein, de voir toutes ces pages manuscrites.
Ouais, c'était vraiment très, très, très beau. Et puis, alors donc, il est passionné par l'architecture, il est passionné par... il est passionné par la peinture. Et, par exemple, il écrit sur certains peintres, et notamment, il écrit sur quelqu'un qui, est, signalons-le aujourd'hui, est décédé, aujourd'hui, à peut-être une heure ou deux, Pierre Soulages. Il rencontre Pierre Soulages au salon des surindépendants, et là, Ragon sera un de ses principaux soutiens. Mais il discute avec d'autres, avec Jacques Doucet, avec Dubuffet, avec Calder. Donc, il est vraiment totalement impliqué dans l'art contemporain. Et c'est assez intéressant. Tenez, puisque nous sommes François Soulages, sur Pierre Soulages, pardon. Je me rappelle avoir visité le musée de Rodez consacré à Soulages, une grande partie des œuvres de Soulages, et par hasard, je tombe sur un petit livre de Michel Ragon, Les ateliers de Soulages. Alors, Michel Ragon rapporte, nous sommes à Sète, la ville de Sète, accessoirement celle de Brassens, si je me souviens bien. Bon. Tout dans cette demeure et dans le jardin, car Soulages habitait sur cette commune, dans le jardin aux allures sauvages qui l'entourent, porte sa marque jusqu'à cette rambarde métallique à laquelle nous nous appuyons, et que Pierre a conçu avec une qualité du détail et du fini qui caractérise tout ce qu'il fait. Ça, c'est ce que Michel Ragon considère. Et Pierre Soulages, plus tard, dans un texte, en 1998, Pierre Soulages jugeait que Michel Ragon regardait sans crainte, avec innocence et appétit, un art nouveau qu'il découvrait. Son attention sincère, active, sans a priori, à laquelle ses sympathies libertaires ne devaient pas être étrangères, le poussait hors des lieux communs traditionnels de la peinture. Le choc de deux amis, de deux intellectuels dans des domaines différents, mais qui s'apprécient, et je trouve que l'échange est vraiment admirable. Alors, l'exposition se déroule jusqu'à la fin décembre. Oui. Donc, je vous invite à vous rendre à cette exposition. Il y a à côté une autre exposition, enfin dans les mêmes locaux, il y a une autre exposition, c'est une exposition de peinture, de photos, pardon.
Photos.
Hein, c'est des photos, c'est une jeune femme qui...
Tout à fait.
C'est ça. Et c'est consacré au monde ouvrier, et on a des ouvriers de l'usine Renault de Flins, on a des gars dans les...
Et beaucoup de photos d'ouvrières.
Et des ouvrières, à Flins, donc à... La RATP, quand ils changent les voies,
on les voit beaucoup, en tant que technicien, etc. Ouais. Oui.
Donc ça, c'est vraiment très bien, très, 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 très intéressant. Un musée dont nous reparlerons indéniablement. Alors, depuis le début de l'émission, hein, parce que quand je vous parle la mémoire des vaincus, les mouchoirs de Cholet, etc., eh bien, tous ces titres et ceux qu'on a présentés là, eh bien, nous pourrons les retrouver sur le site de la librairie de la Fédération anarchiste. Vous pouvez les commander en passant par le site, ou mieux, en venant à la librairie 145 rue Amelot. Nous allons passer à un petit morceau de musique. René-Louis Laforgue est un peu oublié aujourd'hui. C'est un chanteur libertaire, très proche de Georges Brassens. Il a fait Julie Larousse, c'est peut-être la chanson qu'on connaît le mieux, ou le moins mal. Et là, c'est le pavé de ma rue, chanson populaire.
Le pavé de ma rue est enrichi d'étoiles, l'herbe des quatre vents s'en vient l'endimancher. Des gosses presque nus se donnent corps et âme aux jeux étourdissants des gendarmes volés. Prends donc un kilo de rêve, la vie sera l'épuisée. Lorsque le rideau se lève, l'on est toujours enchanté. Le pavé de ma rue s'est recouvert d'un voile. Où sont donc les enfants qui jouaient sans rancœur? Car adultes fourbus, ils versent bien des larmes, pleurant aux jeux navrants des gendarmes voleurs. Tiens bien ton kilo de rêve, la vie va le grignoter. Profite donc de l'entracte, tu pourrais bien déchanter. Le pavé de ma rue s'offre bien des audaces. Quand au soleil couchant, les vieux s'en vont flâner. Il rit comme un bossu aux histoires cocasses des gens parlant du temps des voleurs gendarmés. Adieu ton kilo de rêve, la vie a bien su l'user. Le rideau pour toi se baisse, tu t'éteins désenchanté.
Troisième temps de l'émission, un moment d'histoire. Et donc là, c'est encore une exposition, mais une exposition à la bibliothèque Mazarine, l'intitulée « De Garamond au Garamond, une aventure typographique ». Et c'est donc Agnès qui va nous présenter cette belle exposition.
Oui, exposition Garamond, Claude Garamond, qui est un graveur du XVIe siècle, avec un T, et la typographie qu'on lui a attribuée, Garamond, avec un D. C'est effectivement à la bibliothèque Mazarine, qui est du reste la plus ancienne bibliothèque de France. Et on peut aller visiter cette exposition du lundi au samedi, de 10h à 18h. Elle se trouve 23 quai Conti, à Paris, sur les quais de Seine.
Voilà, on peut donc se promener en même temps sur les quais de Seine, voilà. Alors, c'est une forme de... va y avoir une forme de partage du savoir, donc que se passe-t-il?
Oui, en fait, pour faire un petit rappel historique, la naissance de l'imprimerie remonte à la fin du 15e, en fait. Et Gutenberg créa la presse à imprimer, il l'offra, entre autres, la lecture de la Bible au peuple.
Alors, c'est une forme de partage du savoir,
voilà.
une autonomisation de la pensée des individus, c'est
tout
ça?
Tout à fait, et la création de nombreuses bibliothèques dans toute l'Europe entière. Mais c'est aussi une époque où chaque imprimeur fondait lui-même son type de caractère en tenant plus ou moins compte des tracés géométriques qui étaient prônés par quelques théoriciens. Et c'était dans l'ensemble plutôt fantaisiste et quelquefois illisible, hein, au niveau de l'image finale. Et de nombreux fondeurs, comme Garamond, apporteront la trame d'une nouvelle typographie à part entière qui illuminera le milieu de l'édition.
Mais cette exposition, que va-t-elle nous apporter si nous allons la voir?
Eh bien, elle nous éclaire sur l'influence qu'a eue cette typographie dans le milieu de l'édition au XXe siècle. Et les nombreux typographes qui vont s'en inspirer. Elle présente des albums alphabétiques en hommage à Garamond, des interprétations de Garamond par Peignot, de Gustave Maury pour la Fondation Stempel.
Alors, qui sont ces personnes-là, Peignot, Maury?
Ah, Peignot, c'est le nom donné à un caractère typographique dans l'esprit des arts décoratifs, qui avait une construction géométrique dessinée par Cassandre, ce pour la Fondation Peignot, du même nom, du reste. D'accord. Sa particularité, c'était que le caractère... il n'y avait pas de caractère de minuscule, de petit, ce qu'on appelle les bas-de-casse. Il n'existait que de petites capitales.
On est d'accord, les bas-de-casse. Alors pourquoi on appelle ça les bas-de-casse, d'ailleurs ?
Parce que c'était en bas des casiers, en fait. Et c'était ce qu'on appelait la minuscule. Ça prenait moins de place. Et c'était géré comme ça dans les casiers des typographes. Et puis il y avait aussi Gustave Maury. Qui lui fournissait en fait des matrices comme des caractères en plomb pour la fonderie Stempel. Enfin aussi, il y avait un livre conservé par l'imprimerie nationale, Le Garamond de Maurice Ollière, concernant l'origine du Garamond, contesté par un peintre Jean Paillard, un document datant de 1914, dont nous parlerons longuement ensuite par rapport au livre que je vais vous présenter. Et il y avait aussi de nombreuses fontes étrangères ou diverses, comme celle du fondeur Maurice Fuller Benton, ou celle de Frédéric Goudy, ou de François Ganot, qui présente la typo Vendôme.
C'est quoi la typo Vendôme?
Oh, c'est une typo inspirée de celle de Garamond, mais elle est beaucoup plus affinée en fait. Puis il y avait aussi des publications de prestige sur des papiers extraordinaires, par exemple de poésie de Verlaine et d'une édition particulière pour Simone Veil.
Mais alors laquelle? Plutôt la philosophe, hein?
La philosophe, et en l'occurrence un livre magnifique qui se nomme L'Iliade ou le poème de la forme, que je souhaiterais d'ailleurs vous présenter à une autre occasion. Il y a aussi une exposition de pièces de Monet fondues à l'effigie de... et à la typo de Garamond.
Alors, qu'est-ce que c'est que les... l'effigie, E accent aigu, P-H-I-G-I-E?
Ben, c'est une représentation en sculpture ou en ciselure d'une personne sur une médaille ou d'une pièce de Monet. Et pour finir au sujet de cette exposition, on peut dire que le nom de Garamond, familier pour les hommes du livre, est devenu perceptible véritablement à la suite du grand événement de l'exposition universelle en 1900. Et comme l'imprimerie nationale y a été représentée et se devait d'être exemplaire, et ça a énormément bouleversé... le monde de la typographie qu'on a cherché à imiter, à comprendre et à expliquer cette nouvelle énergie.
D'accord. Et alors après?
Et donc, Rémi Jiménez, aux éditions des Cendres, publie un catalogue Claude Garamond, typographe de l'humanisme, intéressant pour comprendre l'histoire de ce grand mouvement typographique que crée Garamond. De toutes ces interprétations faites de la forme ou de l'origine exacte de cette typo, mais aussi de l'histoire romancée au sujet de l'homme, Claude Garamond, dont il convient d'en rechercher l'exactitude. En effet, il y a eu de nombreuses recherches scientifiques qui sont élaborées par Maurice Ollière, donc, puis Béatrice Wardé, enfin Verviers, qui viennent contredire les idées reçues et identifier précisément une quarantaine de polices de caractère agréées à Garamond, mais dont la paternité du caractère romain d'origine revient en fait à Robert Estienne.
Et Robert Estienne, c'est un lien avec l'école Estienne, Estienne, place d'Italie?
Tout à fait. On a donné le nom de Robert Estienne à cette école à l'origine, dédiée à l'imprimerie. Puis elle est devenue l'école de design et de communication par excellence que l'on connaît tous. Ce catalogue donc de Rémi Jiménez vise à proposer un éclairage nouveau sur l'ensemble de ses recherches et épisodes de l'histoire de Claude Garamond. En ce début du XVIe siècle, c'est l'époque de l'humanisme qui cherche à promouvoir l'émancipation de l'homme par la connaissance et l'écriture. Et François Ier s'y intéresse et les imprimeurs recherchent bien sûr absolument à plaire au roi. Garamond est le fils d'un compagnon imprimeur breton qui fera dès la fin de ses études un apprentissage de fondeur. Et Claude Garamond n'est encore qu'un adolescent, en fait, quand Geoffroy Thory crée un nouveau mouvement typographique s'attachant à une meilleure esthétique. Je cite son document « L'art et la science de la vraie proportion de la lettre » dans un recueil appelé Jean Fleury. C'est ainsi qu'apparaissent sous les presses en fait de Robert Estienne les trois corps de caractère de la forme originelle de la typographie dite Garamond, élément totalement nouveau dans l'histoire du design graphique, s'inspirant des caractères romains avec un accent mis sur les pleins et les déliés. Et ce ne sera que dans les années suivantes que Claude Garamond, sous l'égide de son maître Angerot, créera d'abord trois polices romaines, puis une grecque, et surtout fera disparaître le caractère gothique de l'édition. Angerot, puis Colline, puis des imprimeurs bien placés lui enseigneront une nouvelle façon de dessiner la lettre romaine et le sensibiliseront surtout aux enjeux littéraires et linguistiques grâce auxquels il rencontrera des personnes proches du roi, comme Jean de Gagny. Et lorsque François Ier souhaita édifier un collège de trois langues, constitué d'une immense bibliothèque savante, des émissaires sillonneront l'Europe à la recherche de manuscrits grecs. Robert Estienne puis Claude Garamond seront invités à collaborer à la création de nouvelles gammes de typographie. Le projet de France, hélas, et de cette bibliothèque sera remis en question, faute aux guerres et aux soucis économiques.
Alors, va intervenir là un événement majeur dans la vie de Claude Garamond.
Oui, Claude Garamond recevra en 1540 la prestigieuse commande des Grecs du roi, dont les poinçons originaux sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale. Cette typographie demandera l'utilisation de plus en plus de quantités de poinçons, plus de 200, des années de travail. Et la collaboration entre Robert et Étienne restera inchangée. Et la typographie Garamond sera la première typographie de l'État, ce qui n'est pas rien. Sa réussite est d'autant plus grande que les éditions sont accompagnées d'ornements typographiques eux-mêmes particulièrement innovants pour l'époque.
Alors, j'imagine que ces poinçons, on doit trouver des présentations, des illustrations dans le livre dont tu fais état, là, de
Genèse. Tout à fait. Puis, l'intérêt, en fait, de Claude Garamond pour les éditeurs de la Réforme, malgré sa discrétion à cet égard, signera la fin de sa relation avec Jean de Gagny, qui le rapprochait, en fait, de François Ier. Et Claude Garamond poursuivra, malgré tout, son œuvre, désormais maître de son art, et commercialisera ses caractères dans toute l'Europe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Sous le nom donc de Garamond.
Avec un D. On est en train de jouer entre le T et le D.
Tout à fait. Et par l'expression Garamond ou Garamoncino dans la péninsule italienne. Ils serviront à l'édition des siècles de lumière avant d'être interprétés par des typographes néoclassiques comme Baskerville, Didot, Bodoni, qui éteindront momentanément sa diffusion jusqu'au rebondissement de l'exposition universelle, grâce à la conversation des poissons de Claude Garamond à la Bibliothèque nationale.
Alors, on ne s'ennuie pas un peu dans cette expo ?
Non, du tout. Cette exposition à la Bibliothèque Mazarine, présente remarquablement ses œuvres d'art typographique à part entière, qui sont composés, comme l'on dit, d'un tableau qui est bien construit, avec le savoir-faire technique, professionnel et artistique, en fait. Pour la petite histoire, avant de conclure, la bibliothèque de la Pléiade utilise cette typographie-là jusqu'à la publication de tous les Harry Potter. Et la police de Garamond reste aujourd'hui encore enregistrée dans tous les ordinateurs. Google a son Garamond, Apple a son garement, et cette prolifération est unique dans toute l'histoire de la typographie.
Est-ce qu'on peut considérer que le Times procède du garement ?
Il est inspiré, il fait de la partie de la même famille de caractères qu'on appelle des Elsevier.
D'accord. Alors, on rappelle les lieux et dates de cette très belle exposition ?
Oui, tout à fait. C'est du 30 septembre 2022 au 30 décembre 2022. L'entrée est libre du lundi au samedi, donc de 10h à 18h. C'est 23 quai Conti, à Paris, dans le 6e. Et l'exposition est organisée en partenariat avec le Centre d'études supérieures de la Renaissance, l'Imprimerie nationale et les éditions des Cendres à l'occasion de la parution du livre donc, de Rémy Jiménez, Claude Garamond, Typographie de l'humanisme, paru en automne 2022.
Et effectivement, on a sous les yeux, là, dans le studio, le livre. C'est vraiment un livre magnifique, très bien composé, de très belles illustrations, très clair, vraiment... un très beau cadeau pour les passionnés du livre. Et je vous rappelle que nous avions toujours dit, quand nous avons lancé cette émission au mois de décembre de l'an passé, que nous souhaitions parler des acteurs de la chaîne du livre et pas simplement des auteurs, des éditeurs. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de faire parler quelqu'un qui est une professionnelle du métier et de parler de cette exposition qui... Bon, entre nous, entrée libre, c'est gratuit, c'est intéressant et vous verrez de très belles pièces.
Et un accueil merveilleux.
Un très bon accueil de la part des gens.
Merveilleux, délicieux, avec des gens complètement disposés à renseigner sur tout ce qu'on souhaite.
Très bien. Alors maintenant, un morceau de musique de l'époque de Garamond, Frédéric. Quatrième temps de notre émission, la présentation d'une pépite. Une maison d'édition, les éditions Ampelos, ont reçu un texte d'un monsieur qui est décédé, Sylvain Végara, et le texte s'appelle les chemins de l'aube. Alors, les témoignages sur l'enfer des camps nazis sont effroyables. Et le lecteur, en tout cas moi, s'interroge toujours sur cette capacité inouïe de tenir, de résister dans des conditions physiques et psychologiques décrites dans ces livres. Ce ne sont pas des romans, la plupart du temps, mais c'est bien du vécu quotidien qui émerge avec souffrance. Certains survivants ne pourront supporter le retour dans leur monde d'avant. Ils se suicideront. D'autres cacheront à leurs proches, famille et amis, les horreurs subies pendant leur captivité. Les suicides, vous vous rappelez tout simplement Primo Levi, ou ceux qui cacheront toute leur vie. Et souvent, on a moi je connais des amis qui me disent je ne savais pas ce qu'avait vécu mon grand-père, etc. Et oui, voilà. Et donc, les éditions Opelos publient là un de ces témoignages, Sylvain Végara, résistant, arrêté en 1943, torturé à Fresnes, déporté à Buchenwald. Libéré en avril 1945, il est évidemment marqué à vie par ses épreuves. En 1960, il parvient à rédiger ce texte qui nous est donné, là, Les chemins de l'aube, et cette voix qui nous parle d'outre-tombe, car, comme je le disais, l'auteur est décédé avant la publication, elle rejoint celle de Primo Levi, d'Elie Wiesel, de Georges Sempoun, de Robert Antelme, de Charlotte Delbault, de Germaine Tillon et de toutes celles et de tous ceux qui n'ont pu que crier, qui n'ont pas pu s'exprimer. Et il y a un passage qui est très fort. Il y en a plusieurs, je vous en citerai quelques-uns. Quand ils descendirent sur la place d'appel, les mains liées dans le dos, le murmure des voix s'amoindrit et le silence ne contemplait plus que les nuages qui passaient dans le ciel juste au-dessus du bois où les arbres très noirs attendaient aussi. Et ce n'était pas le silence des appels précédents, mais un silence façonné d'opacité et de brouillard, semblable peut-être à celui qui cherche une prière et qui, ne sachant plus prier, ne trouve que des voyelles inertes. En fait, c'est le début, là, d'hommes qui vont être pendus devant l'ensemble de leurs camarades. Et les SS approchaient, poursuit le texte, avec une infinie lenteur, et leurs gestes moulés d'habitude ironique ne traçaient aucune équerre dans le ciel. Ils ne hurlaient pas et gardaient calmement leur bâton à la main. Les trois morts, quand le dernier pas fut franchi, eurent une immobilité d'arbres déjà morts. C'est un texte d'une grande émotion, d'une qualité littéraire impressionnante. Vous avez entendu quelques passages là. Comment décrire ces faits avec une élégance de style? C'est tellement horrible. Eh bien, Sylvain Végara parvient admirablement à nous présenter ces scènes de vie, de souffrance, d'inhumanité, de souvenir. Il parle d'un ami espagnol. Il va mourir. Et il avoue, par exemple, que puisqu'il va mourir, eh bien, il sera proche de lui, il lui racontera jusqu'à la fin son comportement. Plus loin, les mots sortent des bouches, mais aussi des regards. Par exemple, la connaissance ne venait pas que des mots et des phrases, mais du regard et de la profondeur qu'il avait su garder, et l'œil portait en lui tous les reflets du passé. Les regards, un mot de fraternité aussi. Tu vois, tu es mon petit frère, ne crains pas. « Je suis avec toi ». Il y avait une volonté d'assurer la protection de certains. Et toujours, la question du regard, eh bien, les hommes se soutenaient. Alors longuement, ils regardaient Emmanuel. Leurs yeux ne se mentaient pas, ne se scrutaient pas, mais un peu de lumière les irradiait. On est dans l'intensité de l'échange. Et parfois, c'est trop dur, parfois on ne supporte pas, et parfois on décide de passer on décide de mettre fin à sa vie et la mort devient projet. Alors vous souffrez, tout est noir, et pourtant un voisin murmure, ça c'est très beau ça, un voisin murmure, j'ai vu une mésange charbonnière aujourd'hui sur les sapins. Vous voyez ce moment de vie, ce moment de couleur dans le noir du sapin. Certains lui donneront du pain. Elle n'a fait que passer d'arbre en arbre et a volé vers la plaine. Son chant était aigu. Et oui, il y a comme un espoir là qui commence à apparaître. Pourtant, la mort est quotidienne. Malheur à celui qui tousse, qui chute, s'effondre dans le froid infini du temps de l'appel sur la place dans le vent. On a tous lu déjà des textes, on a tous vu des documentaires où on voit, ou des films reconstitués, où on voit ces hommes qui, par moins 10, moins 15, moins 20, sont à peine vêtus, sont dans le froid là, et certains qui tombent et qui seront ensuite éliminés. Et Dieu est-il là ? Eh oui, parce que il y a des passages sur la présence. Est-ce que Dieu existe dans des conditions pareilles ? Dieu est-il là ? Où est-il resté dans le monde d'avant ? Vous voyez cet aspect très intéressant. Il y a le monde d'avant et il y a le monde que nous sommes en train de vivre. Et le principal personnage du livre, d'ailleurs, s'appelle Emmanuel. Un nom qui vient de l'hébreu et qui signifie « Dieu est parmi nous ». Tout est symbole dans ce texte. Je trouve ça tout à fait intéressant à découvrir. Et j'insiste aussi beaucoup sur l'aspect littéraire de la chose. Dans la pièce où il luttait, parce qu'il était malade, c'est un individu qui est malade, peu de bruit extérieur arrivait. Parfois, le vent heurtait la fenêtre et les secousses qu'il imprimait aux vitres laissaient à l'angle du mur l'écho de sa plainte qui tournait, tombait, rongée par le silence. Et dans l'opacité de la chambre, ronde et brillante, semblable à quelques toupies d'enfant, la tête rasée de Barkov, penchée sur sa table, consultant ses dossiers. Et ce dénommé Barkov doit assurer la vie d'un homme et va sauver justement Emmanuel. Alors écoutez la plus loin, écoutez la mort, la promesse des vivants. Écoutez la mort, c'est aussi permettre à quelqu'un qui va mourir de lui dire oui, je tiendrai la promesse que je te fais. Et par exemple, oui, quand je sortirai du camp, oui, j'irai dans ton village, oui, je penserai à toi dans ton village, et c'est aussi une manière de faire partir le camarade qui va mourir dans des conditions épouvantables, de le faire partir avec un peu de sérénité. Et puis, eh bien, il faudra bien en sortir de ce camp, puisque le camp va être libéré. Et la scène du miroir, je ne vous la décris pas, vous la découvrirez, elle est merveilleuse, je vous laisse la découvrir quand Emmanuel se voit dans le miroir. Tout comme l'ombre d'Emmanuel, son ombre. Bon, comment la vie peut-elle revenir ? Eh bien, il y a un passage aussi qui est très beau et qui, il est là, tenez. La lumière du jour s'adossait à la clarté du ciel. Il y eut soudain le reflet d'un chant oublié du monde, dès que l'abeille parcourut le dortoir. Elle allait, tournait, émettait quelques sons graves. Une petite crainte striait les spirales ascendantes qu'elle effectuait pour retrouver la fenêtre et l'immensité du ciel. L'abeille frôlait notre héros, montait, descendait, et tout le bâtiment résonnait de l'écho de ses ailes. Cela s'élevait, s'amplifiait et grondait, non comme le son du canon qui devenait de plus en plus audible, hein, bah oui, les canons approchent hein, du camp de concentration, mais comme la promesse bienheureuse du retour à la vie. Eh oui, c'est une abeille qui fait venir, comme fait revenir, comme la mésange charbonnière, qui fait revenir la vie. Alors, Vergara était protestant, et je voudrais lire un petit passage là, pour notre amie Agnès. C'est à la fin, puisque les éditions sont d'inspiration protestante. Cet ouvrage a été composé en Garamond, Cordouze, une police de caractère créée vers 1532 par le célèbre fondeur protestant Claude Garamond. Né au début du XVIe siècle, il apprit son métier de fondeur de caractère chez Antoine Augereau, un autre fondeur et imprimeur protestant, qui sera pendu et brûlé pour hérésie en 1534. Sylvain Vergara, Les chemins de l'aube, édition Pelos, 2022. Un très beau livre, un petit livre, très beau livre, très émouvant, et un grand moment de littérature. Et pour rester dans cette ambiance, eh bien, Frédéric, nous allons écouter un chant qui a été composé en 1933 par des prisonniers d'un camp de concentration allemand. Ils dénoncent la violence à leur égard ainsi que leurs conditions de vie et de travail. Frédéric.
Oh, terre de détresse.
Alors Agnès, cinquième temps, un roman de la vie. Donc, Carole Fives, quelque chose à te dire. Ça, c'est le choix d'Agnès.
Oui, je souhaitais vous parler de ce dernier roman de Carole Fives, quelque chose à te dire. C'est paru aux éditions Gallimard. Et pour situer à peu près, nous sommes en fait à Lyon, où une jeune écrivaine partage sa vie entre ses essais littéraires et la garde de son fils. Garde aussi partagée, bien entendu, avec son ex-mari. Et Elsa est une jeune femme déterminée, féministe, engagée dans des cercles d'écriture, en quête de reconnaissance en qualité d'écrivaine et dans son rôle de mère. Elle dégage une énergie passionnelle dès le début du roman et vit dans l'admiration de ses inspiratrices, dont elle s'attache à ressembler ou à s'inspirer tour à tour de l'une d'elles, jusqu'en imitant entre autres leur tenue vestimentaire qu'elle apprécie. Elle est choquée par le décès de Béatrice Blandy, une écrivaine réputée qui s'est éteinte prématurément d'une longue maladie. Et lire Béatrice Blandy, je cite, disait Elsa Feuillet, lui donnait l'impression de mieux se connaître elle-même. C'était une petite voix qui l'entraînait et qui lui disait « Regarde les choses sous cet angle et vois comme la vie est différente ainsi, plus intense, plus vraie. » Et encouragée par la publication de son dernier essai, elle décide de lui rendre hommage en lui dédicaçant son dernier essai littéraire. Le message est si troublant que le veuf de Béatrice Blandy la remarque et lui propose de venir le rencontrer dans son appartement parisien. La rencontre a lieu, Elsa et Thomas Blandy deviennent amants et vivent leur idylle dans l'appartement peuplé de la présence de son égérie décédée. Des photos, des tableaux, des meubles, des connaissances et cadres sociaux de tout le milieu littéraire de Béatrice et de la talentueuse écrivaine, des objets et des passions jusqu'aux parfums et des toilettes diverses qu'Elsa partagera au quotidien, sauf le bureau de Béatrice qui lui est interdit. Elsa va être à la fois très impressionnée par ce luxe et par l'ombre de son écrivaine fétiche qui reste très prégnante dans les lieux, détaille Carole Fives. Puis cette romance se transforme en thriller à la suite de quelques mots trouvés, puis de quelques indiscrétions qui transportent le lecteur que je vous laisserai découvrir donc en lisant quelque chose à te dire de Carole Fives aux éditions Gallimard. Son énergie passionnelle résistera à cette aventure, non sans nous surprendre devant l'attention particulière que lui prêtera une jeune personne à la fin du roman, dont elle dira, je cite, « Elsa la vit ainsi, elle avait à peu près son âge, son regard était clair et lumineux. Elle pensa aussitôt à Estelle Lécuyer, cette amie d'enfance qu'elle avait tant admirée. Elle devait sûrement ressembler à cette femme aujourd'hui. Peut-être était-ce elle, d'ailleurs. Peut-être était-ce un signe du destin, Estelle Lécuyer, à ce moment-là, dans ce bar-là. » Ce livre est en fait une déclaration d'amour à la création et à l'importance de la passion dans le milieu artistique. Et le besoin de se reconnaître en quelqu'un ou quelqu'un qu'on sublime comme un maître et s'introduire dans son intimité pour illuminer sa création. Carole Fives dit à ce sujet, on a tous des doubles, une part d'ombre, et c'est aussi ce que je recherche à développer chez ce personnage. C'est un livre passionnant, mêlant les états littéraires comme les autres courants artistiques, avec cette énigme et cette émotion particulière à travers ce jeu de miroir. Ce thriller est digne d'écran du cinéma. Et il en est le piquant et l'inattendu de l'histoire. Et il relève forcément d'une écrivaine passionnée par l'art. Carole Fives ou Carole Fives, je ne sais pas exactement comment on dit en fait son nom de famille, je m'en excuse. Elle dit au sujet de ce roman, « J'ai voulu faire un livre sur la littérature. » Il se trouve qu'elle naît vraiment de façon dynamique sur la relation d'admiration que je peux avoir pour certains textes, comme je pourrais avoir sur certains tableaux auparavant. Je voudrais pour conclure que nous nous rappelions ceci, dès que nous recherchons quelques informations sur tel ou tel artiste, nous entendons souvent « il a été l'élève de » ou « bien il a été à l'école de, maître de ». Enfin, du travail, des exercices graves jusqu'à l'authentification à l'artiste, des copies pour apprendre, jusqu'à l'apprentissage de sa singularité, en fait. On peut aussi se poser la question de comment trouver sa place d'artiste dans ce milieu sectaire aussi, il faut bien le dire. Enfin bref, Carole Fiff, quelque chose à te dire, édition Gallimard de 2022.
Très bien, merci. Frédéric, est-ce qu'on peut passer un petit morceau de musique, une minute et demie, pas plus ? Ça marche, merci. Dernière étape de notre émission, des images pour comprendre. On va essayer de développer un peu les bandes dessinées. Alors, nous étions à Blois, sur le salon, enfin sur les journées de l'histoire. Et alors, nos amis de chez Vibert sont surtout connus, les éditions Vibert sont surtout connues pour leurs ouvrages de préparation au concours de l'administration. Et puis, on tombe sur leur stand et nous découvrons une BD réalisée par un couple britannique, Marie et Brian Talbot. Alors c'est toujours intéressant de lire un événement ou une partie de notre histoire présentée par des étrangers. Un autre regard, une autre approche, un autre angle. Et la première scène forte de cette BD, c'est l'arrivée gare de Lyon d'un cortège. Un cercueil encadré par des forces de l'ordre. Le 22 janvier 1905, c'est le cercueil de Louise Michel, puisque Louise est décédée au mois de janvier à Marseille, et donc elle est ramenée par le train, et incroyable, même décédée, Louise inquiétait encore les autorités. Et tout est en noir et blanc. Les dessins sont en noir et blanc, avec des drapeaux rouges qui, au fur et à mesure, deviendront noirs. Une féministe américaine regarde la scène et son dialogue avec une jeune parisienne servira de fil conducteur. C'est comme ça qu'on découvrira la ville Louise Michel, la commune de Paris, etc. Alors, évidemment, Louise, on la connaît sur Radio Libertaire, mais le graphisme est intéressant. Certaines pages sont très belles, comme celle qui représente Montmartre lors du siège de décembre 1870. On sent le froid, la neige, et une femme qui va demander de la nourriture pour des enfants et qui va s'adresser à Clémenceau, d'ailleurs, qui était Georges Clémenceau, qui était maire de Montmartre. Et cette femme, c'est Louise. D'autres vignettes montrent les queues, la misère, la violence, et au milieu, les propos de Louise visionnaire. Vous connaissez les textes de Louise, c'est toujours enflammé. Bon. Et plus loin, une autre vue de Montmartre, très belle aussi. Le maquis, c'est-à-dire ces espèces de petites maisonnettes là, les moulins. Et Louise qui crie « Place au peuple, place à la commune », vous connaissez la célèbre formule. Bien sûr, la scène des canons du 18 mars est largement mise en valeur. Avec Louise, après, nous déambulons dans les sentiers de la butte. Nous nous perdons dans l'utopie, un beau pays. Sa passion pour l'éducation, notamment les filles. Elle parle, elle explique. Et pendant 72 jours, vous le savez bien, la commune jette les bases d'une autre société. Tiens, la guillotine est brûlée, place Voltaire. Vous verrez, la guillotine brûlée. Plus loin, les femmes interviennent dans les clubs, qui sont dans les églises. On reconnaîtra Paul Minck. Et puis les vignettes des barricades, qui annoncent celle de la semaine sanglante. Le procès de Louise Michel et quelques œillets rouges à la mémoire de Théophile Ferré. Je rappelle qu'elle avait écrit un poème sur les œillets rouges et qui était destiné à Théophile Ferré. Mais Louise, c'est aussi la déportation en Nouvelle-Calédonie avec Nathalie Lemel. Vous verrez qu'elle soutient la cause des Kanaks. Elle soutient aussi les Kabyles déportés. Eh oui, il y a eu une révolte kabyle à la même période. Et puis elle revient en 1880, c'est un triomphe. Elle revient et elle reprend son combat comme si elle s'y était engagée. Et tout Paris vibre à son passage, vivante, et puis devant son cercueil. C'est un très beau livre en forme d'hommage à Louise Michel, la Vierge Rouge, la Bonne Louise, comme on l'appelait dans les quartiers pauvres de Montmartre. Donc je rappelle le titre, les auteurs et le titre, Marie et Brianne Talbot, Louise Michel, La Vierge Rouge, aux éditions Vuibert, en 2022. Eh bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre attention et votre fidélité. Nous nous retrouverons dans 15 jours. Dans 15 jours, le mercredi 9 novembre, nous rencontrerons une association d'appelés, d'anciens appelés de la guerre d'Algérie pour nous parler justement de la guerre d'Algérie et de leur démarche. C'est tout à fait intéressant. D'ici là, eh bien, Frédéric, pas de nouveaux messages, a priori. Donc, l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite évidemment ni Dieu ni maître, avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager. Au revoir.
La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'en peut-être. Ni Dieu ni maître. ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite. Fear of sound.